Du coup, on est tous ressortis du bâtiment 123. Il fallait qu'on passe par la commune de Saint-Josse, donc on a repris le métro sur quelques stations. Une histoire de domiciliation. Et puis là, on voulait aller se balader par la rue du Congrès, qu'on a descendu. Et puis, on arrive devant un mastodonte, cette grande colonne. Derrière elle, une grande esplanade vide qui nous donne la vue sur notre droite, les bâtiments finance, l'antenne Proximus, etc. Sur la gauche, on a des bâtiments...
Sainte-Gudule ?
Comment ?
Sainte-Gudule, non ?
Non, en Sainte-Gudule, on ne la voit pas depuis la colonne. Mais c'est vrai qu'elle est cachée par des bâtiments qui sont qui ressemblent à du Haussmann, mais ce n'est pas du Haussmann. Puis cette flamme-là qui flamme.
L'immense et sinistre esplanade qui s'étend aujourd'hui derrière la place du Congrès a enterré un marché très animé, qui au siècle passé se trouvait au niveau des bas-fonds, 15 mètres plus bas que la place du Congrès, à laquelle il était relié par un double escalier monumental. Le 4 mai 1853, le conseil communal décida que le marché à construire dans les bas-fonds de la rue Royale portera le nom de marché du parc, ainsi que les maisons de la rue Chemin de Terre à front de ce marché appartiendront à la nouvelle place. Et le journal L'Indépendance écrivait « Ce quartier mal famé va disparaître sous des constructions élégantes, car l'établissement du marché implique l'élargissement des rues voisines pour la sécurité des communications. » Malgré cet environnement très populaire et même populacier, le marché du parc eut le privilège d'approvisionner la clientèle plutôt aristocratique du haut de la ville. Rue Royale, rue du Cane et rue de Louvain. On y entendait parler le français beaucoup plus couramment qu'au marché du bas de la ville. Même les servantes s'ingéniaient à y faire de leur stouff en interpellant en français les maraîchers, de braves paysans de Scarbec, Helmet ou Ever. Les échoppes de plein air y étaient garnies réglementairement de fruits, légumes et primeurs, mais on débitait aussi de la viande, du beurre et du fromage dans un marché couvert qu'abritaient les deux grands pavillons massivement construits, de part et d'autre des escaliers monumentaux. Ces pavillons devinrent plus tard l'un le dortoir de l'œuvre de l'hospitalité, dit asile de nuit, à l'époque où il fallait pas loger autant de gens dans la rue. L'autre magasin de réserve des grands décors du théâtre de la Monnaie, c'est-à-dire le cimetière de tous les opéras qui n'eurent jamais de reprise. L'immense et sinistre esplanade qui s'étend aujourd'hui derrière la place du Congrès a enterré un marché très animé qui au siècle passé se trouvait au niveau des bas-fonds, 15 mètres plus bas que la place du Congrès, à laquelle il était relié par un double escalier monumental. Le 4 mai 1853, le conseil communal décida que le marché à construire dans les bas-fonds de la rue Royale portera le nom de marché du parc, ainsi que les maisons de la rue Chemin de Terre à front de ce marché appartiendront à la nouvelle place. Et le journal L'Indépendance écrivait « Ce quartier mal famé va disparaître sous des constructions élégantes, car l'établissement du marché implique l'élargissement des rues voisines pour la sécurité des communications. » Malgré cet environnement très populaire et même populacier, le marché du parc eut le privilège d'approvisionner la clientèle plutôt aristocratique du haut de la ville. Rue Royale, rue du Cane et rue de Louvain. On y entendait parler le français beaucoup plus couramment qu'au marché du bas de la ville. Même les servantes s'ingéniaient à y faire de leur stouff en interpellant en français les maraîchers, de braves paysans de Scarbec, Helmet ou Ever. Les échoppes de plein air y étaient garnies réglementairement de fruits, légumes et primeurs, mais on débitait aussi de la viande, du beurre et du fromage dans un marché couvert qu'abritaient les deux grands pavillons massivement construits, de part et d'autre des escaliers monumentaux. Ces pavillons devinrent plus tard l'un le dortoir de l'œuvre de l'hospitalité, dit asile de nuit, à l'époque où il fallait pas loger autant de gens dans la rue. L'autre magasin de réserve des grands décors du théâtre de la Monnaie, c'est-à-dire le cimetière de tous les opéras qui n'eurent jamais de reprise. Le marché du parc, fermé pendant la guerre de 14-18, ne reprit jamais vie. Il fut rasé en 1957 avec tous les bas-fonds pour les énormes besoins bureaucratiques de l'État. Le roi Baudouin était venu en mai 1956 y poser la première pierre de la cité administrative, entouré du premier ministre Van Acker et du ministre des Travaux publics Van Oudenhove. Les discours ministériels furent plusieurs fois interrompus et hués par les habitants expropriés. Comme pour l'évocation de ce qui était le marché du parc, je vous lis ici une anecdote tirée de Jean Dosta, cet incroyable historien qui avait beaucoup d'affection pour son territoire bruxellois. Ceci est extrait de l'excellent Notre Bruxelles oubliée. La première acheteuse de Wheatloaf. C'était un matin d'hiver de l'an 1871 ou 1872, les archives sont incertaines quant à la date exacte. Ce matin-là, Madame Clarembeau, la femme du pharmacien de la rue Royale numéro 21, décida de ne pas envoyer sa servante au marché, comme elle le faisait d'ordinaire. Madame Clarembeau dirigea ses pas vers la place du Congrès, que tout le monde appelait encore place des Panoramas, nom qu'elle portait avant l'érection de cette fameuse colonne voûtée à la gloire du Congrès constituant de 1831. De toute façon, elle s'arrêta un instant pour regarder la vaste perspective des toits et des tours de la ville basse et des cheminées des fabriques lointaines de Kureghem et de Molenbeek se profilant sur les versants verdoyants de Skeut, d'Oseghem et de Kuckelberg. Mais ses regards étaient attirés surtout par le pittoresque et multicolore tumulte du marché qui, en contrebas de la place du Congrès, animait tout le quartier populeux des bas-fonds. Madame Clarembeau ignorait évidemment que 100 ans plus tard, sur cette place du Congrès inchangée, les promeneurs n'auraient plus comme perspective qu'une immense et sinistre esplanade masquant entièrement le panorama des édiles du XIXe siècle, celle qu'ils avaient si soigneusement mise en valeur, ni le marché familier des bas-fonds, remplacé par une gigantesque remise où des milliers de voitures sans chevaux s'empileraient sur 5 étages. Sans se presser, Madame Clarembeau descendit les 4 volets d'escalier de pierre bleue qui menaient au marché. Comme tout le monde, elle nommait cet endroit le Nouveau Marché, bien qu'il existât depuis une quinzaine d'années déjà. Mais officiellement, il se nommait Marché du Parc. Les échoppes de plein air y étaient garnies réglementairement de fruits et légumes et primeurs. Mais on débitait aussi de la viande, du beurre et du fromage, dans un marché couvert qu'abritait un des 2 grands pavillons massivement construits de part et d'autre des escaliers monumentaux de la place. Le marché du parc, malgré le cadre populaire que lui formaient les rues des Denrées, de l'Orsendal, Tilly, du marché, du chemin de terre, de la betterave et d'autres venelles des bas-fonds, avait le privilège d'approvisionner la clientèle plutôt aristocratique du haut de la ville, rue Royale, rue du Cal, rue de Louvain, Trurenberg, etc. On y entendait parler le français beaucoup plus couramment qu'au marché du bas de la ville. Même les servantes s'ingéniaient à y faire de leur stouffe, en interpellant en français les maraîchers, de braves paysans de Scarbeck, Helmet ou Evert, qui cultivaient beaucoup mieux leurs choux que la syntaxe française. Madame Clarembeau, ce matin-là, fit la causette avec un maraîcher qu'elle connaissait de longue date. L'épouse d'un pharmacien, bien sûr, se devait de parler français. Et ce marché-là, a nommé Tône de Koster, et oui, l'agriculture belge a retenu son nom, possédait également des notions de cette langue distinguée, car il avait été élève jardinier au jardin botanique de l'État, un poste officiel. On sait toutefois qu'à un moment donné, de Koster demanda à Madame Clarembeau si elle ne voulait pas mettre au menu de son dîner un légume extraordinaire, nouveau, inconnu, dont il avait apporté quelques spécimens au fond d'une caisse. Un légume blanc, c'est bizarre. Quel goût a-t-il? Oh, un peu amer, mais si vous jetez la première eau, trop amer, c'est très bon. Croyez-moi, on en a déjà mangé souvent. Et personne n'en a été malade. Au contraire, c'est très sain et fortifiant. C'est pourquoi j'ai eu l'idée d'en apporter au marché d'aujourd'hui. Vous en avez déjà vendu ce matin? Non, les gens se méfient de ce qu'ils ne connaissent pas. Et les trois quarts des clients du marché sont des servantes, qui ne peuvent évidemment pas acheter autre chose que ce que leur patronne leur a indiqué. Mais vous, madame, femme d'un pharmacien, vous pouvez faire examiner ce légume par votre mari. Il verra bien que ce n'est pas du poison. Quelle sorte de plante est-ce exactement ? J'ai obtenu cela avec des racines de chicorée endive, dont j'avais eu des semences au jardin botanique. C'est dans mon jardin de la vallée du Josaphat que j'ai fait des essais. J'ai semé au mois de mai. J'ai arraché les plantes en octobre et coupé la verdure près de la racine, de façon qu'il ne reste sur la racine qu'une petite tête de verdure. J'ai recouvert de bon fumier pour faire chauffer. Et la petite tête de verdure a commencé à s'allonger et à produire de belles feuilles blanches que vous voyez là. C'est du forçage par la chaleur. Mais c'est très délicat. Il y a des pousses qui se dessèchent, d'autres qui pourrissent. Mais quand tout est bien réglé, on doit obtenir de belles feuilles blanches. C'est pour ça que j'ai appelé mon légume Wheatloaf. Quant à Madame Clarembeau, on croit savoir que ce nouveau légume ne la laissa pas indifférente, car sa petite fille l'entendit raconter un jour qu'elle fut la première femme au monde à avoir acheté des chicorées Wheatloaf, offertes par De Coster au marché des Bas-Fonds, peu après la guerre de Septante. Et cette petite fille épousa un de mes oncles. C'est ainsi que cette histoire m'est parvenue, écrit Jean d'Austin. Elle est certes insignifiante à côté des grands événements de cette époque, mais elle a du moins le mérite d'être inédite et de rappeler que les bonnes choses que nous mangeons aujourd'hui sont dues, bien souvent, à des gens dont on ne cite pas le nom dans les manuels d'histoire, alors qu'ils le méritent autant que les foudres de guerre.